autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous demander comment, depuis les temps les plus anciens, les hommes ont-ils su prendre soin des plus faibles et des plus vulnérables d'entre eux, des blessés, des malades, des infirmes, des aveugles, des handicapés. Comment les premières sociétés humaines ont-elles pris en charge ces hommes et ces femmes aux corps différents, souvent dépendants, les ont-ils rejetés ou accompagnés, voire même appareillés ? Et qu'est-ce que ces différentes formes de solidarité à travers les âges, ou au contraire de rejet, disent de nous et de notre rapport au handicap et à la différence. Voilà ce que nous nous étions demandé en décembre dernier avec l'archéo-anthropologue Valérie Delattre de l'INRAP, auteur de « Handicap, quand l'archéologie nous éclaire ». Nous vous proposons de réécouter cet entretien éclairant et inspirant avec Valérie Delattre, qui aime citer le savant Albert Jacquard « Je suis les liens » que je tisse avec les autres. Autour de la question « Pourquoi et comment faire l'archéologie du handicap ?» Bienvenue pour retisser ensemble nos humanités. Bonjour Valérie Delattre.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous éclairer. Je reprends le titre de l'excellent ouvrage que vous avez publié aux éditions du Pommier, Handicap, quand l'archéologie nous éclaire. Vous êtes Valérie, archéo-anthropologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, spécialiste des pratiques funéraires et cultuelles de la proto-histoire au Moyen-Âge. Vous vous êtes depuis quelques années investie dans l'archéologie du handicap. À la suite d'une question, d'un défi, j'ai envie de dire que vous a lancé l'athlète paralympique Riyad Salem, triple champion d'Europe de basket en fauteuil, avec qui vous avez depuis publié Décrypter la différence. C'est cette rencontre, Valérie, qui a été à l'origine de vos recherches et de vos découvertes archéologiques, anthropologiques, sur la prise en charge du handicap au sens large, à travers les âges.
Ah oui, tout à fait. C'était il y a une quinzaine d'années maintenant. J'ai rencontré Riyad dans un cadre associatif et il était très curieux de ce qui se passait dans le passé. Et lui est lui-même lourdement handicapé, il est amputé. Et avec une forme d'esprit bravache, il m'a interpellé en me disant « Mais c'était comment pour moi, les gens comme moi dans le passé ?» Et j'étais bien en peine de lui répondre parce que même en ayant travaillé sur un tas de pratiques funéraires, toutes périodes confondues, j'avais dû croiser un ou deux bossus, quelques cas d'arthrose, j'avais des souvenirs de faculté sur l'eugénisme, Platon. Mais vraiment, je n'avais aucun recul, aucune idée de ce que pouvait être le traitement du handicap et les comportements des populations, quel que soit leur groupe d'appartenance. Alors comme c'est un athlète de haut niveau, que c'est un challenger, il m'a dit « Je te lance le défi, relève-le avec tes collègues » et on organise un colloque, une publication. Et c'est d'autant plus émouvant que ce colloque a eu lieu 10 ans aujourd'hui à l'UNESCO. Et c'était pour la Journée internationale des personnes handicapées.
Et oui, parce que c'est vraiment une recherche. Enfin, l'archéologie du handicap, ça n'existait pas. Enfin, c'était très peu abordé.
Alors, en tant que tel, ça n'existait pas. La paléopathologie existe depuis le début du XXe siècle.
Et c'était souvent... La paléopathologie, c'est l'étude
des maladies du passé. C'est-à-dire qu'on est des médecins, on travaille avec des médecins qui ont des patients qui sont un petit peu muets, donc qui sont tranquilles. Mais c'était surtout une course à qui aurait eu le cas le plus ancien. Alors les colloques, c'était moi j'ai le cas de la lèpre la plus ancienne diagnostiquée dans tel groupe, moi j'ai la syphilis, etc. Donc les savants s'interpellaient avec leur diagnostic et leur ancienneté, mais on ne travaillait pas sur l'état sanitaire d'une population et encore moins sur le handicap.
Parce que c'est compliqué aussi. Alors non seulement d'exhumer les handicaps, ça peut être des traces d'os, des traces sur des restes humains que vous découvrez ou sur les outils, les techniques qui ont pu par exemple appareiller. Mais c'est compliqué quand il s'agit de passer à l'entraide, à l'aide, aux soins. C'est très compliqué d'avoir des traces matérielles.
Bah alors en fait, on a une double composante, c'est-à-dire qu'il y a la composante biologique. L'archéoanthropologie, c'est de la biologie. La matière osseuse nous donne une sorte de carte d'identité de l'individu, âge, sexe. Et pathologie osseuse. Bien sûr, quand on travaille sur le handicap du passé, on n'a pas accès à la surdité, à la cécité. Donc, on bifurque, on va vers l'histoire de l'art, on va vers les textes, on va vers les objets, la céramique, les mosaïques, etc.
Pour voir si c'était représenté.
Tout à fait. Et puis, il y a une composante culturelle. Avec nos grilles de lecture, on sait comment nos défunts, sur lesquels on travaille, ont été enterrés, mis à l'écart, intégrés, valorisés, s'ils ont du mobilier, l'orientation, etc. Donc, toutes ces grilles de lecture nous permettent d'avoir accès au handicap stricto sensu, diagnostic, et à leur intégration ou exclusion. Donc, on peut se poser les questionnements du XXIe siècle.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'angélisme non plus. Hein. Vous avez à la fois démontré, vous avez fait énormément de découvertes et de recherches là-dessus. Il y a eu des périodes d'exclusion, de rejet, mais beaucoup, beaucoup de périodes d'entraide, de soutien.
Oui,
c'est ça. Hein.
Oui, oui, oui. Alors, la base de la recherche, c'était de savoir si topographiquement, dans nos cimetières, on avait une mise à l'écart des corps différents, au seul prétexte de leur différence, parce que la lecture du statut social, elle est possible dans le monde funéraire. Et de règle générale, il n'y a pas d'exclusion au seul prétexte du handicap, ce qui est déjà en soi quelque chose de rassurant. Et comme vous le dites, il ne faut pas une archéologie angélique ou une sorte de feel-good archéologie. Il y a des périodes sombres, quand la guerre se déclare, quand la famine arrive, les intempéries. Celui qui est vulnérable et qui ne sait pas se débrouiller par lui-même devient vite une bouche inutile, et auquel cas se créent des mendicités urbaines, des cours des miracles, etc. Les grands cas d'extermination sont plutôt récents. Je pense à Action T4 des nazis. Je n'ai pas souvenir ni trace archéologique ou historique de grandes exterminations aussi massives au seul prétexte de la différence. Il existe des cas ponctuels de sacrifices, etc. Mais en tout cas, on a plutôt l'impression, parce que le handicap était partout, sans lunettes, sans appareil auditif.
Et oui, bien sûr.
On est tous handicapés en puissance.
C'est ça. D'ailleurs, moi, je suis équipée, je suis appareillée. Hein, oui, j'ai des lunettes.
Bien sûr. Une double fracture non réduite. C'est quelqu'un qui boite, alors qu'un footballeur au XXIe siècle interrompt sa saison quelques semaines et reprend son championnat. Donc en fait, dans les sociétés du passé, on est handicapé potentiel. Et donc la différence est présente, c'est une différence de proximité qui concerne chacun.
De quoi nous faire réfléchir aujourd'hui sur ce qu'on appelle handicap. On souhaitait vous faire entendre la voix de Riyad Salem, qui a été votre inspirateur. Bon, on a un petit souci, c'est notre ordinateur qui est un peu handicapé aujourd'hui, voilà. Mais tant pis. On va continuer à se parler et notamment autour de cette phrase que vous aimez bien citer, hein, c'est Albert Jacquard, le regretté généticien. Je suis les liens que je tisse avec les autres. Autrefois, les premiers hommes ont tout de suite été quoi ? Obligés, forcés de tisser des liens avec les autres ?
Probablement forcés. La solidarité d'un groupe, elle est nécessaire pour ne serait-ce que assurer la survie du groupe, assurer la génération suivante. Le premier soin que l'on apporte à l'autre, c'est l'allaitement maternel. C'est la première façon de s'intéresser à quelqu'un d'autre et de lui donner toutes les chances de survivre et d'être équipé pour la vie. Et donc, l'intérêt pour la vulnérabilité, il est patent dès les premiers signes qu'on a de gestes funéraires, d'attention funéraire. Dès qu'il y a mise en sépulture, on considère qu'il y a là les prémices de l'humanité. L'humanité, elle s'exprime parce qu'on prend soin les uns des autres. On laisse pas, c'est Antigone, hein, on laisse pas ces morts sur le sol sans s'y intéresser. On leur offre quelque chose qui doit être le palier vers un au-delà, une spiritualité. Et donc, dès qu'on a les toutes premières traces de pratiques funéraires, de liturgie, de préconisation, quelle qu'elle soit, on a la lecture de prise en charge de la non-autonomie.
Et c'est ça, en fait.
Néandertal.
Et oui, voilà, oui. Les premières traces de cette, pour vous qui êtes archéologue du handicap, les premières traces remontent à Néandertal, c'est-à-dire aux premières sépultures, en
ça
fait.
Ça remonte à 95, 100 000 ans avant notre ère. Et c'est stupéfiant parce que.
Quelles sont ces premières traces ? Qu'est-ce qu'on a trouvé qui a pu vous faire dire que les Néandertaliens prenaient soin des différents, des estropiés, des handicapés, des malades ?
Alors, mes collègues qui fouillent des tombes néandertaliennes considèrent qu'il y a à l'heure actuelle une centaine de tombes de Néandertaliens à travers le monde, ce qui ne fait pas un corpus très, très conséquent. Toutes ces tombes sont individuelles, c'est-à-dire qu'il y a un corps, une fosse sépulcrale, sauf deux qui ont été trouvées en Israël, à Kavzeh. Et à chaque fois, il y a un adulte et un enfant. Et cet enfant est handicapé. L'un souffre d'une hydrocéphalie et l'autre une forme de paralysie infantile. Ce qui fait que nous, avec nos grilles de lecture, quand on décrypte ce type de sépulture double, on parle de sépulture d'accompagnement. Quelle que soit la période, y compris au Moyen-Âge, des sépultures conjugales ou des sépultures de fratrie que l'on ne sépare pas dans la mort. Et donc, la lecture de ces sépultures, si anciennes soient-elles, nous montre qu'on a jugé que ces petits êtres un petit peu abîmés, un petit peu vulnérables dans leur vie, n'étaient pas capables d'être autonomes dans la mort. Et donc, on leur a mis un adulte pour les accompagner dans la mort.
C'est extraordinaire. C'est qu'ils étaient non seulement accompagnés, ça veut dire qu'ils étaient accompagnés dans la vie et accompagnés
exactement.
Dans la mort.
Exactement. Déjà, c'est des petites vies en des temps qui sont quand même assez compliqués. Mmh, hein. 100 000 ans avant notre ère, les temps sont rudes. Donc on a...
Oui, et quand on était handicapé, un bras en moins, ou même des dents qui ne permettent pas de manger. Enfin.
Ces petits ont été portés sur leur dos de leurs parents qui étaient probablement itinérants, etc. Donc on les a amener jusqu'au bout de la petite vie qui leur était permise. Ça me fait penser à une citation de Charles Gardou, qui est un professeur et qui dit qu'il n'y a pas de vie minuscule. Mmh, mmh. Et donc, en l'occurrence, voilà, à chaque fois que je pense à ces petits néandertaliens, et puis on leur a offert dans leur au-delà à eux un adulte qui veillait de la même manière et qui les a accompagnés pour l'éternité.
Autour de la question pourquoi et comment faire l'archéologie du handicap, j'ai envie de dire un peu l'archéologie de notre humanité, je vous propose, Valérie Delattre, de nous arrêter sur un crâne trépané du néolithique, exhumé par les archéologues de l'INRAP en 2007 en Alsace. Alors, ce crâne a un trou très important au-dessus de l'œil droit. Explication d'Aline Thomas, une archéo-anthropologue que vous connaissez bien, chargée des collections d'anthropologie du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, qui a montré ce crâne à notre reporter Catherine de Copé.
La particularité, donc vous l'observerez, c'est cette perforation au niveau de son os frontal. Il s'agit d'une trépanation. La trépanation, en deux mots, c'est l'ouverture de la boîte crânienne, dans ce cas réalisée du vivant de l'individu. On le sait parce qu'il y a des traces de cicatrisation. Lorsque l'individu survit, il restitue de l'os compact sur cette berge. Donc là, on a une cicatrisation. Donc on sait que cet individu a été trépané de son vivant. Donc ce phénomène, qui est en tout cas attesté de manière certaine depuis le néolithique, est loin d'être anecdotique. Déjà, sur ce que ça signifie, concrètement ce que savaient faire techniquement ses congénères, sur la connaissance anatomique, parce que la perforation, elle n'est pas faite n'importe où, elle frôle cet axe-là, médian, qui est constitué à l'intérieur de sinus. C'est-à-dire que si on ouvre un centimètre plus loin, on tue la personne. C'est absolument létal si on ouvre à cette position-là. Donc il y a une connaissance anatomique extrême, il y a une connaissance technique, parce que ouvrir sans tuer la personne, c'est aussi ne pas léser la dure mère, qui est juste sous-jacente, avec des outils, je le rappelle, en silex. On n'a pas encore d'outils en métal, donc avec des outils très rudimentaires, qui nous paraissent rudimentaires. Et par extrapolation, ça nous permet aussi d'imaginer qu'il y avait une bonne connaissance de tous les processus qui permettent de limiter les phénomènes d'infection et la gestion de la douleur. Donc la question du pourquoi, elle reste un petit peu en suspens. Généralement, la recherche s'accorde à dire qu'il y a potentiellement un aspect médical, mais qu'on n'arrive pas très bien à circonscrire parce que, justement, une fois ouverts, ils sont un peu limités dans leurs possibilités. On lit souvent que, potentiellement, c'était pour des personnes qui avaient des migraines, des personnes qui étaient épileptiques. Mais, comment dire, le lien entre le geste et la guérison du mal paraît quand même assez indirect.
Beaucoup de questions, évidemment, mais c'est extrêmement impressionnant, cette trépanation de crâne qui date du néolithique et parfaitement faite, réalisée.
Ah oui, ce sont des neurochirurgiens de la préhistoire. C'est ça, ma collègue a parfaitement décrit le geste technique, extrêmement risqué, parce qu'on est au plus près du cerveau. Et au-delà du geste technique effectué au silex, donc par grattage, raclage... C'est absolument terrifiant. Les néolithiciens s'accordent à dire que 70% des patients survivaient, elle a expliqué, avec la cicatrisation des bords osseux. Dans quel état, on ne sait pas. Mm-hmm. Peut-être un petit peu égaré, migraineux, hémiplégique, probablement.
Pourquoi ils avaient besoin de soutien après aussi.
Alors, hein. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que le néolithique, on s'installe, on cultive, on pratique l'agriculture. Le simple geste de la trépanation met en ordre tout un protocole de groupe, de communauté, puisque quelqu'un est en souffrance. Quelqu'un décide qu'il faut intervenir. Et qui est ce quelqu'un ? Le chaman, l'homme médecine, il a des connaissances anatomiques, probablement avec les animaux. Il faut une pharmacopée quand même assez costaude. Mm-hmm. Donc on peut imaginer que l'herbe qui fait rire et les champignons hallucinogènes étaient dans leur pharmacopée. Donc il y a un sachant, quelqu'un qui va intervenir, qui a le geste sûr et qui peut pratiquer une opération extrêmement précise. Et puis après, se met en route le groupe de proximité qui va prendre soin de la personne pendant sa convalescence, qui va soigner, qui va alimenter, qui va soigner
oui, qui
les
va
fièvres,
même nourrir, même
mais
tout,
complètement,
enfin,
une convalescence alitée. Et après, on peut supposer que la personne est un petit peu vagabonde et pas forcément en état d'être opérationnel en tant qu'agriculteur ou éleveur. Donc, un groupe qui surveille un petit peu et qui prend soin de l'autre. Et pour vous montrer qu'on est vraiment dans des sociétés qui s'attache à la vulnérabilité et à son assistance, on a récemment trouvé en Vendée un crâne de vache trépané. Alors, on ne peut pas imaginer que le groupe a voulu sauver et guérir une vache souffrant de migraine, mais Alain Froment, justement, du Musée de l'Homme, l'a étudié avec des archéozoologues, et on pense qu'il s'agit là d'une expérimentation animale. C'est-à-dire qu'on peut rajouter à tous ces maillons quelqu'un qui se fait la main, déjà sur un crâne d'une vieille vache un peu à mettre au rebut, histoire de voir l'épaisseur de l'os, le cerveau, sa proximité, etc. Donc, on a vraiment un groupe qui, avec toutes les étapes, est au service de celui qui souffre.
Et on parle du néolithique. Il y aurait de quoi nous inspirer aujourd'hui.
C'est pour ça
c'est
que
évident.
Le passé est clair. Le passé, ce n'est pas une leçon magistrale, un cours magistral ou quelque chose de pesant qui devrait nous accabler. Ce sont des petits flashs, des petits éclairages qui interrogent nos comportements à nous du XXIe siècle.
Allez, on va faire un autre bond dans le passé, mais pour vous demander justement... Alors là, on était dans les plus anciennes traces d'intervention chirurgicale. Ensuite, vous consacrez pas mal de chapitres. Il y a aussi une exposition au Beau Musée d'archéologie de Nantes qui en parle. À la chirurgie ensuite, et notamment à la figure d'Ambroise Paré, parce que c'est quand même ça qui a aussi fait bouger les lignes et les choses, et qui montre à quel point on s'est intéressé alors à ces handicapés, parfois victimes de guerre et de combats aussi.
Alors, on a des traces d'amputations qui sont très anciennes. Déjà aussi, Néandertal pratiquait des amputations par désarticulation. C'est-à-dire qu'il allait au coude ou au genou, il désarticulait probablement pour enlever un membre gangréné.
Donc on fallait avoir de sacrées antidouleurs.
Oui, il devait connaître plein de choses.
Oui, sûrement.
Un petit peu interdites, mais il devait connaître et pratiquer. En revanche, Ambroise Paré, c'est le premier prothésiste de l'histoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est assez fascinant, moi, que j'aime beaucoup, parce qu'il est à la croisée des chemins entre le Moyen-Âge, il croit encore qu'il y a des chimères, des sirènes, des monstres marins, et en même temps, dans ses écrits, il pratique des anatomies, des dissections, il invente une manière de cautériser, de ligaturer les moignons abîmés. Et il a été le chirurgien de François Ier et de tout un tas de rois qui étaient un petit peu belliqueux et qui passaient leur vie sur les champs de bataille. Et à la Renaissance, au début de la Renaissance, on a découvert la grosse artillerie, l'armement, les gros pistolets et qui mutilaient de façon effroyable les soldats. Et donc Ambroise Paré et ses pères barbiers chirurgiens, puisque tel était son nom, amputaient sur le champ de bataille. Alors lui se targuait d'amputer en 20 minutes. Il amputait un membre inférieur. Mais comme c'était quelqu'un d'assez humaniste et généreux, il a inventé ce qu'on a appelé la prothèse des pauvres. C'est-à-dire qu'il voulait appareiller tous ces soldats invalides qu'on va retrouver aux Invalides plus tard avec Louis XIV qui continuait toutes
ces
guerres
meurtrières. C'est vraiment l'invention des prothèses pour tous.
Pour tous. C'est ça. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les prothèses étaient fabriquées par les fabricants d'armures. Donc, n'y avait accès que les grands seigneurs de guerre, etc., qui avaient le loisir et l'argent de se faire financer de magnifiques prothèses. On en trouve, il y a un musée en Italie, le musée de la prothèse, c'est assez fabuleux, avec déjà des doigts articulés, avec des crémaillères, etc. Mais c'est des prothèses d'apparat, fabriquées par les plus grands orfèvres, les plus grands artisans. Évidemment, la Pietà, ils n'avaient pas le droit, n'avaient pas accès. Et donc, Ambroise Paré, avec des matériaux simples, du bois, de la paille, a inventé ces pylons et ces prothèses un petit peu sophistiquées. Il en a fait des catalogues. C'est pour ça que je dis c'est le premier prothésiste. Il a démocratisé l'accès à l'appareillage compensatoire.
Autour de la question du handicap et de ces prothèses, quand l'archéologie nous éclaire et quand la musique nous rassemble, je propose d'écouter, c'est de circonstance, le groupe le plus ambianceur de Kinshasa, Staff Benda Bilili, dont la plupart des membres, faut-il le préciser, sont en fauteuil roulant, mais au fond ça nous est égal. On écoute Staff Benda Bilili sur RFI.
Nakende mabe na songa ne mabe, nakende mabe na songa ne mabe, nakota ke malodina te kanzoto na bala te malodina sali etula na komi pousse pousse na pense nanga na komi pousse pousse na pense nanga na sali nino na bomana nye na sali nino na bomana nye na kende mabe na zonga de mabe na kende mabe na zonga de mabe na botate malodina te kanzoto na balade malodina sali etula na komi pousse pousse na pense nanga na komi pousse pousse na pense nanga
na leli mwana mama na mileli mwana mama
na komi pousse pousse na pense nanga na komi pousse pousse ma bébé etula semba semba e bilokota semba semba e bilokota semba la 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 la.
Le staff Benda Bilili sur RFI, ça vous plaît Valérie Delattre? Ça ambiance, ça enjaille, comme on dit à Abidjan, autour de la question du handicap. Quand l'archéologie nous éclaire, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Valérie Delattre, et quand l'archéologie nous ouvre sur d'autres manières de prendre en charge, de prendre soin des autres, plus vulnérables, malades ou handicapés, vous avez participé, Valérie Delattre, à un forum sur les solidarités organisé par Libération, avec notamment la primatologue Sabrina Krief, qui elle a mis en évidence le soin et l'entraide dans les communautés de chimpanzés qu'elle étudie en Ouganda. À ce sujet, Sabrina Krief a une question pour vous, Valérie Delattre, on l'écoute.
Ce qu'on a constaté chez les chimpanzés qui sont particulièrement mutilés, donc ceux qui ont un pied ou une main en moins, c'est qu'il semble exister des sortes de binômes qui se mettent en place, plus qu'une prise en charge par l'ensemble du groupe. Je me demandais si c'était des choses qui avaient pu être détectées chez les premiers hommes. Est-ce que cette aide au handicap était une aide de la part de l'ensemble du groupe ou bien plus spécifiquement de la part de certains individus?
Parce que chez les chimpanzés, vous avez observé ça vraiment en binôme, enfin.
En fait, quand on utilise les données de long terme et qu'on regarde les associations entre les individus mutilés et handicapés et les autres individus, il y a des binômes qui ressortent beaucoup plus fréquemment. Donc voilà, je m'interrogeais sur la signification de ces pairs qui semblent se former et savoir si c'était quelque chose qu'on observait aussi chez les premiers humains.
Votre réponse, Valérie Delattre, est-ce qu'on peut le savoir d'abord quand on est archéologue, archéo-anthropologue?
On va le savoir. Ah. Alors, je pense qu'on peut déjà mettre en exergue un binôme mère-enfant que l'on peut voir dans les sépultures et dans la vie quotidienne. Ça, je pense que
les mères prenaient soin de leur enfant handicapé ou malade.
Est un grand universel. Je pense que la communauté humaine, le groupe humain, comme pour, on l'a vu pour les néolithiques, se met au service du vulnérable. Pour Néandertal, dont on a parlé précédemment avec ses sépultures doubles, les sépultures ont été fouillées il y a plusieurs décennies et ce n'était pas des préoccupations qu'on avait à cette époque-là. Et donc, par exemple, un programme de recherche devrait être lancé pour travailler sur la paléogénétique, pour savoir si un lien biologique, indépendamment du lien de groupe collectif, unit l'adulte à l'enfant.
C'est-à-dire, au fond, que tout dépend du regard qu'on porte sur le passé.
Bien
et si
sûr.
On s'intéresse à la question du soin, de la santé,
exactement.
De l'entraide, du handicap dans les sociétés du passé, on le trouve, en
bien
fait.
Bien sûr. Hein,
c'est, ça.
C'est une recherche qui est à la fois fondée sur des données récentes que l'on met au jour avec un regard bien particulier, mais qui permet de réactiver tout un tas de données anciennes, dont celles de Néandertal. Les préhistoriens commencent à regarder autrement les hommes préhistoriques, les néolithiques, parce que ces grilles de lecture, on ne les avait pas mises en marche dans les années précédentes.
Pourquoi? Donc, parce qu'on avait des préjugés, ça nous intéressait moins, mais parce qu'on a d'ailleurs aujourd'hui un regard un peu spécial hein, sur les corps différents, les handicapés, je ne sais pas si on est tellement plus avancé que les néolithiques ou les néandertaliens.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'archéologie, si on la considère stricto sensu, et l'archéologie funéraire en fait partie, c'est une discipline qui peut être vite très poussiéreuse, où on fait de l'entre-soi, des colloques, des tables rondes, des rapports de fouilles, on s'auto-alimente, la typochronologie, les objets, etc. Mais quand on fait de l'humain, forcément, il y a un attrait extrêmement gratifiant et exaltant, c'est d'inscrire nos sujets de prédilection dans le passé, pour voir comment les gens faisaient avant, avec cette espèce de punchline, on n'est pas les premiers à... à accueillir les migrants, à pratiquer tel type d'alimentation, à faire des actes de violence et à prendre soin les uns des autres. Et donc le handicap permet, c'est une sorte de curseur qui nous permet d'avoir accès à des comportements. Mais encore faut-il s'interroger et avoir des chercheurs que ces thématiques très contemporaines, très interpellantes, parce que ça nous concerne aussi, ça met en évidence quelques petits manquements ou des dysfonctionnements aussi, sans dire que tout était beaucoup mieux dans le passé.
Oui, c'est ça, on n'est pas dans l'angé, vous voulez rien prouver.
Rien
vous,
du tout.
C'est ça. Hein.
C'est pour ça que j'ai utilisé le mot éclairé, c'est-à-dire le passé, il est inspirant. Il doit être inspirant. Et nous, notre rôle, c'est d'être des révélateurs. Et si on s'intéresse au handicap, que quelques chercheurs s'intéressent au handicap au XXIe siècle, ils vont regarder dans les siècles et les millénaires passés, et on va faire surgir un champ d'investigation fabuleux.
D'autant que vous l'avez dit au début de cette émission, Valérie Delatte, le handicap dans les temps anciens, alors évidemment pendant la préhistoire et même après, c'était beaucoup plus large. Moi j'ai des lunettes, je m'en porte très bien, mais enfin, même au Moyen-Âge, je ne sais pas si j'aurais eu des lunettes.
Sans doute pas.
Voilà, j'ai des dents, je vais chez le dentiste, mais voilà, on peut aussi être handicapé parce qu'on n'a plus de dents, qu'on peut plus manger. La notion de handicap change aussi à travers les âges. À ce sujet, je vous propose un petit détour par l'exposition du musée du chronographe à Nantes, que vous connaissez bien, hein, qui a lieu jusqu'au 5 janvier. Exposition dont vous êtes, Valérie Delatte, l'une des commissaires scientifiques avec Hervé Guy et Marie-Laure Hervé-Montel. Marie-Laure Hervé-Montel est archéologue à l'INRAP, spécialiste des périodes antiques, et elle a décrit à notre reporter Raphaël Constant une curiosité médicale, une spécialité médicale développée à l'époque romaine, c'est l'ophtalmologie. Explication devant une des vitrines de cette exposition. Prenez soin de vous, l'archéologie du soin et de la santé.
Le handicap, c'est une notion très relative. À l'heure actuelle, c'est vrai que je ne sais pas quel est le pourcentage de la population à porter des lunettes, mais ce qu'on dit aux gens quand ils viennent voir l'exposition, c'est imaginez-vous ce matin, vous levez et vous ne mettez pas vos lunettes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Avoir un défaut de vue, c'est un handicap. Donc il faut imaginer qu'à l'époque antique, il n'y avait pas tous les appareillages actuels. Les Romains exerçaient la médecine de façon professionnelle très très tôt. Et ici dans la région, on a la chance d'avoir beaucoup de témoins d'une des spécialités, ce sont les oculistes. Donc vous avez ici la chance d'avoir un petit échantillon de ces objets. Quelques vases en verre qui contenaient des produits de médecine pour faire les médicaments pour l'oculiste. Donc ce petit coffret est exceptionnel, il est en très 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 bon état. Il servait à contenir des collyres. Alors aujourd'hui quand on parle collyres, on a la petite image, des petites quelques gouttes dans l'œil. À l'époque gallo-romaine, c'est absolument pas ça. Les collyres se présentent en fait comme des pains en pâte souple. L'oculiste avait également ce qu'on appelle un cachet d'oculiste. Alors ici, on a eu la chance d'en retrouver un. Alors ce cachet, c'est assez extraordinaire, parce que ce n'est pas simplement un objet archéologique. Parce que là, grâce à ça, on connaît son nom. Il s'agit ici de Proclianus. On connaît également le nom de la maladie que soignait ce petit collyre. Et on connaît également la posologie. Alors là, on prenait le petit pain, on l'émiettait, on le diluait avec un petit peu d'eau ou de liquide, on utilisait une petite cuillère du type de celle qu'il y a dans la vitrine là, et on se l'appliquait sur l'œil. Donc rien qu'un petit caillou comme ça, c'est une source d'information assez impressionnante pour moi.
Impressionnant en effet, un collyre médicinal qui date de l'époque gallo-romaine, voilà qui permet, sans ou avec jeu de mots, de changer vraiment de regard sur ce qu'on appelle le handicap finalement.
Bien sûr. Et ce qui est d'autant plus intéressant pour cette période gallo-romaine, c'est que nos prédécesseurs allaient certes chez Proclianus et ses confrères pour se faire soigner, se faire opérer de la cataracte. Imaginez avec des outils en bronze, instruments en bronze qu'on pourrait retrouver chez un ophtalmologue à l'heure actuelle, avec un autre matériau de fabrication, mais des outils tout à fait pertinents pour travailler sur la cataracte. Les ophtalmos gallo-romains étaient reconnus dans tout le bassin méditerranéen, mais ce qui d'autant plus touchant nos ancêtres, c'est qu'ils allaient chez le médecin, mais ils allaient aussi au sanctuaire, au cas où, implorer la divinité. Et si celui qui était atteint de la cataracte allait au sanctuaire de source, prier une déesse pour le guérir, il fabriquait des ex-voto en forme d'œil. Et donc on a, pour cette période, la science, mais la petite plus-value spirituelle
qui ne fait pas de mal, hein,
ça ne fait pas de mal, au cas où, mais qui est éminemment contemporaine. On peut se faire soigner chez un oncologue et puis aller à Lourdes, on peut pratiquer la luminothérapie, ce qu'on veut.
C'est humain, tellement humain.
Et voilà. Et c'est en ce sens que travailler sur le handicap, ce n'est pas travailler sur quelque chose qui est cloisonné, qui est à part, qui est des acronymes, etc. C'est travailler sur nous. En fait, ça nous renvoie tous nos comportements dans ce qu'ils ont de plus humain et de plus simple.
Qu'est-ce que c'est pour vous? Pourriez-vous me donner une définition du handicap? Justement, qu'est-ce que vous diriez, Valérie Delattre?
Alors, le handicap, c'est certes adossé à une pathologie, on est bien d'accord. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais pour moi, le handicap, au sens le plus large possible, c'est la différence. C'est la différence et la vulnérabilité, encore que, quand je vois des athlètes paralympiques à Londres, aux Jeux paralympiques, et que je les vois s'entraîner, que je les vois faire du cardio, etc., et être en meilleur santé que nous, la vulnérabilité devient une notion un petit peu aléatoire.
Justement, donc, à ce sujet, Valérie Delattre, à propos de vulnérabilité qui n'en est pas, ou qui est plutôt une force, j'ai envie quand même de vous faire écouter Riyad Salem, l'initiateur de tout ce projet, champion de basket et de rugby en fauteuil, formidable ambassadeur du handisport, qui vous a mis sur cette piste de l'archéologie du handicap. On n'a pas pu l'écouter au début de l'émission, on l'écoute maintenant.
Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est apporter un supplément d'âme à la recherche pour pouvoir en même temps comprendre ce qui s'est passé avant, pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes de Néandertal étaient des êtres humains parce qu'ils enterraient leurs morts, mais ça on le savait plus ou moins déjà, ils s'occupaient de leurs handicapés. Donc c'est devenu une nouvelle référence pour expliquer que l'humanité de quelqu'un elle est liée à sa capacité de s'occuper de ses plus faibles.
Merci à Riyad Salem de nous le rappeler aujourd'hui, parce que c'est aussi quand même pour qu'on change tous de regard un peu sur, vous le disiez, alors les handicapés, ok, mais les autres, tous les autres qui ne sont pas tout à fait pareils, pas tout à fait conformes, c'est quand même pour ça aussi que vous travaillez sur le passé, que vous êtes archéologue et anthropologue.
Alors Riyad parle des déglingués. Voilà, c'est un terme générique. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça les corps différents, c'est-à-dire tous ceux
les
qui ne sont pas dans la norme.
Déglingués.
Voilà, on est dans des civilisations et des sociétés qui prônent la norme, la standardisation absolue. On exclut le troisième âge, les seniors, etc. Et la différence, c'est quelque chose qui enrichit, qui nourrit, qui apprend à être solidaire, qui apprend des jolies choses.
Et qui fait du bien aussi, parce que moi, c'est qu'en lisant votre livre, finalement, on se sent mieux et de fréquenter. Déglinguer entre guillemets, fait qu'on se sent
ça
peut-être un peu mieux.
Très bien, mais bien sûr, et c'est extrêmement enrichissant. C'est sans compassion, c'est sans pathos,
c'est ça.
Loin de là,
voilà.
loin de là.
Tiens, sans compassion, sans pathos, vous avez eu envie d'écouter un petit extrait d'un film qui a fait beaucoup de bien à tout le monde, Les Intouchables, signé Éric Toledano et Olivier Nakache, avec Omar Sy et François Cluzet, déjà hors normes. Mix.
Fais attention. Les gars des cités, ils n'ont aucune pitié.
C'est exactement ça. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Souvent, il me tend le téléphone, tu sais pourquoi? Parce qu'il oublie. Alors c'est vrai, il n'a pas spécialement de compassion pour moi. Seulement, il est grand, il est costaud, il a deux bras, deux jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé. Alors tout le reste, hein, maintenant, aujourd'hui, dans mon état, comme tu dis, d'où il vient, ce qu'il a fait avant, je m'en contrefous.
Viens m'aider! On va remettre Philippe dans son fauteuil. Direction la douche. Bah tiens, et c'est tout seul, montre-moi.
Vous voulez des gants blancs ou quoi? Frottez, nom de Dieu.
Ah, mais ça mousse pas, ça chauffe pas bizarre, ça mousse pas.
Alors vous en êtes?
Bah j'ai là des cheveux, mais ça mousse pas.
Mais arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat.
Non.
Donnez-moi un chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat, on a le droit d'en rire. Et c'est même fortement conseillé, hein, Valérie Delattre, c'est ça?
Évidemment.
Voilà qui a permis de changer de regard sur le handicap, sur nos idées fausses, sur nos stéréotypes, sur nos angélismes aussi. Le handicap, quel qu'il soit, parce que là on a parlé de handicap physique, mais il y a aussi le handicap mental, les maladies mentales. Vous aimez bien nous rappeler aussi, ou plutôt nous apprendre en fait, que les hôpitaux psychiatriques sont nés en terre d'islam.
Oui, alors quand on fait de l'archéologie funéraire, on n'a pas accès forcément à toutes ces maladies psychiatriques, cognitives, archives sensorielles, forcément, puisqu'elles ne laissent pas de traces sur la matière osseuse. Mais l'histoire de l'art sont riches d'enseignements. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert quelque chose que je trouve absolument fabuleux. C'est l'origine des hôpitaux psychiatriques qui naissent au 8e siècle à Bagdad. On a des grands personnages extrêmement riches qui vont fonder des hôpitaux qu'on appelle des bimaristans. Ce sont les maisons des aliénés, parce que dans l'islam, la santé mentale est très importante. Et ces hôpitaux, qui vont ensuite se développer dans toute la terre d'islam, en Andalousie, en Tunisie, à Carthage, on les connaît très bien, ils sont très documentés. Ils accueillent tous les aliénés, ce qu'on appelle les fous, quels qu'ils soient. Et ce qui est très important, c'est qu'ils acceptent tout le monde, hommes, femmes, civil, militaire, alors on va pas dire laïque ou athée parce qu'à l'époque, pas
oui,
vraiment, mais toute religion.
On
accepte les juifs, on acceptera au temps des croisades les chrétiens et on leur pratique des soins en adéquation avec leur pathologie. C'est là que va naître la balnéothérapie, la musicothérapie, la zoothérapie parce que des grands savants comme Avicenne ou Averroès vont travailler sur l'origine du mal. Dans l'Occident médiéval, on regroupe les fous, les aliénés. Au mieux, on les nourrit, mais on ne cherche pas à aller aux racines du mal. Et
on
à
les
guérir.
Enferme, hein, on les éloigne,
voilà,
on les enferme.
On les éloigne de la cité, mais on ne cherche pas à les guérir. Tandis que dans l'islam, dans le monde musulman, on cherche. Et on a même des grands traités pour essayer de guérir la dépression nerveuse, qui est considérée depuis peu comme un handicap invisible. Et donc, on a une grande richesse de l'islam qui a su s'intéresser à une vulnérabilité extrêmement particulière qui est troublante parce que la maladie mentale est heurte et peut faire peur. Mais là, en l'occurrence, je trouve ça extrêmement fascinant de voir que dans tous ces pays se sont développées les premières maisons des fous, les premiers hôpitaux psychiatriques avec les soins dédiés.
C'est ça, parce que là, on est vraiment dans l'archéologie pour laquelle vous avez travaillé aussi, à l'archéologie du soin, à l'archéologie de la santé. C'est vraiment l'archéologie du soin parce que c'est le fait d'essayer de soigner, peut-être pas de guérir, mais au moins de soigner, de soulager l'autre.
Oui, moi j'utilise souvent le terme de prise en charge qui peut heurter, mais je trouve que il prend tout son sens. Il y a des handicaps qui sont extrêmement lourds, qui doivent nécessiter des aidants, du personnel, des familles, etc. Donc c'est vraiment une charge, mais je me plais à dire qu'une société s'honore à prendre en charge. C'est des charges qui élèvent l'esprit, c'est-à-dire qu'être présent à l'autre, quel que soit son état, Sans jugement, sans critique, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant hein, pour soi-même et puis pour un groupe. Un groupe est riche de ses différences. Riyad Salem avait organisé un grand festival il y a quelques années, quelque chose de très décalé, et son slogan c'était « Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances ». Et je trouve que voilà, une société, elle est riche de ça. On amène tout ce qui nous sépare et on fait groupe avec tout ce qui nous rassemble.
Valérie Delattre, autour de la question, comment changer de regard sur le handicap et comment l'archéologie nous éclaire? Vous citez en exergue de votre ouvrage ce morceau de Grand Corps Malade qu'on va écouter tout de suite sur RFI, Sixième Sens.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là, hors du temps, que la réalité a choisi pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête, y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle, un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel, un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air, mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Sixième sens, Grand Corps Malade, sur RFI, ce sixième sens qui apparaît, c'est l'envie de vivre. Vous ouvrez votre ouvrage, hein, l'archéologie, handicap, quand l'archéologie nous éclaire, sur ces mots de Grand Corps Malade, Valérie Delattre.
Ah oui, je pense que c'est quelqu'un qui sera extrêmement important dans la façon qu'il a de proposer un regard sur le handicap, sur la sémantique. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots handicapé. Aujourd'hui, on dit personne en situation de handicap. Mais non, quelqu'un est handicapé. Ça fait partie de sa carte d'identité.
Vous rappelez d'ailleurs l'étymologie que je ne connaissais pas du tout de ce mot handicap.
Handicap. Alors, c'est un mot anglais qui veut dire la main dans le chapeau, qui vient du XVIIe siècle. Et en fait, il vient des milieux hippiques. Pour essayer de donner ses chances à tous les, à tous les, à tous les coureurs, à tous les jockeys, on pénalisait le plus fort. Et c'est-à-dire que...
On lui mettait un handicap.
Voilà, on lui mettait un handicap, ça deviendra le terme pour le golf, pour un tas de sports. Mais en fait, le handicap, c'est la pénalisation des meilleurs. Voilà. Donc c'est paradoxal, puisque maintenant c'est quelque chose qui est extrêmement...
Oui, mais on peut peut-être aussi faire appel à cette étymologie-là.
Ça
pour
vient de là.
Changer de regard, et je reprends aussi les termes de Grand Corps Malade, pour que les autres peut-être changent de regard, parce que c'est ça qui est très compliqué, cette question du regard de l'autre sur les autres.
Et puis, il y a une phrase toute simple que Grand Corps Malade reprend aussi parfois. C'est une adaptation de la phrase de Kennedy qui disait « Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire ». Le principe, c'est « Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les personnes handicapées, mais ce que les personnes handicapées peuvent faire pour vous ». Et c'est ça qui est intéressant dans le lien, dans l'échange. C'est-à-dire que nous, au prétexte que quelqu'un est handicapé, on va se sentir obligé de l'aider à traverser, de le pousser. Pas du tout. C'est une personne qui... si elle en a besoin, le demande, mais qui n'est pas en situation de dépendance.
C'est ça. Puis nous aussi, on est un peu interdépendants, légèrement, on va dire.
Mais bien sûr.
Alors, on l'a compris, Valérie Delattre, vous aimez bien aussi vous inspirer des artistes. Je propose un dernier éclairage avec celui de la plasticienne Prune Nourri, qui vous a consulté pour son œuvre, ses sculptures, inspirées des ex-voto, hein, c'est sous la forme d'objets ou d'organes, qui des ex-voto cristallisent les espoirs de guérison, et puis les remerciements aussi des hommes et des femmes confrontés à la maladie, à l'infertilité, et guérie ou pas. On écoute Prune Nourri, entretien recueilli depuis New York par téléphone par Caroline Fillette.
Pour cette partie ex-voto, j'avais surtout des références contemporaines, en fait, de choses que j'avais pu voir à travers le monde, que ce soit des ex-voto au Brésil, en bois, que ce soit des ex-voto au Mexique ou en Italie, en argent. Il manquait en fait cette dimension archéologique, cette dimension millénaire. Et c'était ça qui m'intéressait, de pouvoir comprendre comment est-ce que c'était ancré, non pas seulement dans le présent, mais bien plus que ça, dans le passé, dans un passé très lointain, donc vraiment dans l'histoire de l'humanité. Et Valérie m'a aidé à comprendre ça, m'a aidé à comprendre aussi les histoires derrière ces objets, parce que c'est ça qui, je pense, l'intéresse autant que moi, c'est l'humain. C'est l'histoire que ça raconte quand on voit un objet comme par exemple un morceau de main ou un morceau même représentant un organe. Quelle peut être l'histoire derrière? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que par exemple des choses liées à la maternité aussi? Est-ce que telle femme avait un problème pour avoir un enfant et donc à travers cet objet-là a espéré ou est là pour remercier d'avoir réussi à enfin concevoir. Donc il y a vraiment cette dimension d'humain, cette dimension d'histoire et de narration qui, je pense, est très intéressante et très importante dans la manière dont Valérie échange dans son travail. Mmh. Elle ne travaille pas sur des objets mort d'une certaine manière. Elle cherche au contraire à recréer l'histoire vivante derrière tout ça et rappeler au souvenir de cette personne-là.
Une science, votre science, Valérie Delattre, l'archéologie, notamment l'archéologie du handicap, qui s'intéresse à ce qui était vivant et qui s'adresse aux vivants que nous sommes.
Ah oui, complètement. Et cette rencontre a été extrêmement enrichissante et passionnante parce que j'avoue que j'avais quelques réticences à m'introduire dans le monde de l'art contemporain qui était un peu rendez-vous en terre inconnue. Et j'ai découvert une jeune femme passionnante avec les mêmes mots-clés que moi, l'humain, le vivant, la maladie, la souffrance. C'est quelqu'un qui a été souffrant et qui, à travers son exposition Catharsis, avait besoin de s'inscrire dans une lignée d'humains en souffrance et guéri.
Et donc, magnifique, une voilà. lignée d'humains ouais. en souffrance qui peuvent se soigner voilà. et se et guérir.
Alors, on lui a amené des exemples. Je pense qu'on lui a amené aussi l'espérance de gens qui faisaient tout pour obtenir une plus-value divine. Alors, on l'a emmené dans les sanctuaires antiques, on lui a montré les ex-voto qu'elle connaissait à travers ses résidences, à travers le monde surtout. Et elle a été extrêmement touchée de voir qu'en fait, elle était le maillon d'une grande humanité qui avait les mêmes ressentis. Et alors, moi, j'exprime ça par la recherche, des écrits, des textes. Et elle a créé, elle a sculpté des ex-voto d'une beauté incroyable en reprenant des techniques antiques avec une inspiration incroyable. Et en fait, nos deux univers sont le même univers. C'est l'univers de l'humain avec ses
L'univers
ses
de l'humain voilà. qui n'est pas celui des fake news. J'ai juste envie, parce qu'on arrive en fin d'émission, de répondre à nos auditeurs de RDC qui posent une question sur les réseaux sociaux en disant que certaines communautés sont persuadées que le handicap ou certaines maladies seraient générées artificiellement en laboratoire par des vaccins. Bon, on peut dire tout de suite que tout ça, c'est du fake news et qu'il y a assez de handicaps et de maladies et de souffrances qui existent réellement pour qu'on n'ait pas besoin de les inoculer.
Voilà, je pense que là, on est dans la grande théorie du complot et que finalement, c'est rassurant parce que le handicap n'échappe pas non plus aux fake news. Ça veut dire qu'il est partie intégrante de nos sociétés et qu'il peut même bénéficier de tout son lot de légendes, de fake news et de choses qui sont...
Finalement, c'est ça, au mais fond, oui. c'est que finalement, bah oui, bah le mais handicap, oui. ça existe, mais ça voilà. nous arrive un peu à tous, à certains moments de notre
oui,
vie, hein, de
sûr,
toute façon.
Bien sûr.
Et c'est ça, en fait.
Et
hein,
donc, ça n'échappe pas à la grande théorie du complot. Donc, voilà. Mais je ne pense pas que dans les laboratoires, il y ait des grands savants avec leurs cornues qui sont en train d'anticiper, de préparer
voilà
les handicaps.
Qui est dit. Merci infiniment, Valérie Delattre, de nous avoir éclairé de la sorte. Et je vous recommande, chers amis auditeurs, très vivement, cet ouvrage que vous avez signé, Valérie Delattre, Handicap, quand l'archéologie nous éclaire, à lire absolument, je pèse mes mots, paru en coédition Univers Science, Le Pommier et l'INRAP. Et vous revenez quand vous voulez, Valérie Delattre, on n'a pas fini, hein, on fait de commencer. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre et nous podcaster à volonté, chers amis auditeurs et auditrices. Nous vous donnons rendez-vous demain en direct avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour nous interroger en ces temps de distanciation sociale sur la foule, les mouvements de foule. Peut-on vraiment comparer un homme et un banc de poissons, un embouteillage avec la circulation de grains de sable et un réseau d'internautes avec une fourmilière? Autour de la question, les foules sont-elles forcément stupides et dangereuses? Rendez-vous demain pour faire marcher notre intelligence collective dans le bon sens, sur les bonnes ondes de RFI. Merci de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ce sera l'heure des informations.